Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour, bonsoir.
Et de Morren.
Salut tout le monde.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Touhou Luna Knights. On enchaînera ensuite sur la magie du jeu à service, nous parlerons de Dreams, nous évoquerons également Crackdown 3, parfois il faut savoir arrêter un projet, nous parlerons également de Monsieur Reggie Fils-Aimé, Sayonara Reggie, n'est-ce pas? Et enfin, on terminera par la rumeur de la semaine qui nous vient de JVC, mais... vous parlera de ça tout à l'heure.
Ça fait très peur quand tu dis Sayonara Reggie. Hein. Ça fait très extrême droite, par contre.
Quoi?
Quand tu dis Sayonara Reggie, ça fait très extrême droite.
Non, mais j'ai très bien entendu, mais je vois pas le rapport, en fait.
Il dit qu'il voit pas le rapport.
Ouais, c'est ce qu'ils disent tous.
Ok, d'accord. Non, mais très bien. Il m'a complètement déstabilisé. Là. On va maintenant donc enchaîner avec Touhou Luna Knights, qui est un jeu qui sortira d'Early Access le 26-02. Un Metroidvania qui a de la pêche, qui est bien, qui a vraiment des sensations de bullet hell par moment. Enfin, ça pète de partout. Les sprites sont absolument énormes. J'attends très fortement. N'est-ce pas, TH?
Bah, Castlevania oblige, hein. Parce que ça y ressemble grandement, même niveau musical. Au niveau direction artistique, on voit des lieux qui sont très emblématiques de la série Castlevania, comme la Tour de l'Horloge, qui est un exemple assez récurrent de cette série. Par contre, voilà, on va quand même jouer une petite maid, donc faut pas chercher ces japonais, donc voilà. Hein.
Une petite maid, mais qui est quand même super bien animée. Mm. Franchement, les sprites sont vraiment fabuleux, les décors sont super détaillés, vous verrez, enfin, moi j'ai vu quelques vidéos, il y en a une à un moment, il y a un combat dans une bibliothèque, mais la bibliothèque, il y a des détails partout, tu fais « waouh ». Enfin bref, vraiment pour un petit projet comme ça, venu du Japon, parce que ça a vraiment pas l'air d'être un jeu qui a énormément de moyens, ben en tout cas, ça fait plus envie que Bloodstained. Hein.
Ah non, c'est clair. Bah déjà niveau rapidité, on peut dire que c'est 2-3 fois plus rapide qu'un Castlevania classique. En plus de ça, ça apparente un peu à des shoot 'em up, mais des shoot 'em up, vous savez, les shoot 'em up japonais bien vénères avec plein de boules partout.
c'est ça.
Parce que là on se demandait avec Tyran, parce qu'on avait regardé un petit peu, il y a une licence de shoot 'em up qui s'appelle Touhou, mais on sait pas si c'est directement relié à cette série-là ou pas.
Ou alors est-ce que en japonais ça veut dire quelque chose? J'avoue que je suis complètement ignorant sur le sujet, hein. Pardonnez-moi les fans de Touhou, ne me frappez pas s'il vous plaît. je suis innocent.
Toi, bon, tu vas avoir des problèmes, toi.
Voilà, c'est ça. Tu ne sais pas ce que c'est Touhou? Tu n'as pas honte? Bon, écoutez, en tout cas, ça fait vachement envie. Mais c'est vrai que ça ressemble à un Castlevania qui serait sous testostérone. C'est les mêmes mouvements, mais en plus rapide, quoi. Et tu dis, mais pourquoi vous avez pas fait ça pour Bloodstained, en fait? Je comprends pas. Enfin, bref.
Et on parlait de pixel art. Et personnellement, je préfère avoir un jeu qui prend sa direction artistique avec du pixel art bien travaillé. Plutôt qu'un jeu comme Bloodstained, on dirait plus un jeu flash qu'un jeu avec un visuel plus léché. Donc si tu me demandes de choisir entre les deux...
Ah oui, non, mais c'est clair qu'entre la 3D dégueulasse de Bloodstained et ça...
voilà, tu vois.
Mais 1000 fois, je prends ça tous les matins. Il n'y a pas photo, quoi. Bon, allez, messieurs, on va enchaîner. On va maintenant parler de la magie du jeu à service, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir que il y a un an de cela... on nous annonçait dans le cadre d'une interview, alors c'était le designer en chef David Vanderhaar, Putain, désolé, je sais pas comment ça se prononce. Hein. Dites-moi, V-O-N-D-E-R-H-A-A-R. Je sais pas comment je suis supposé prononcer
non,
ça.
Non, ça me semble pas mal. Hein. Non, mais c'est pas tenté à la fin. Van der Haar, ouais, c'est pas mal.
C'est ton petit côté, extrême droite qui est ressorti encore.
Ce podcast, je précise que ce podcast est enregistré un vendredi soir. C'est, voilà, ça me paraît important.
Ceci explique cela.
Voilà. Donc, ce monsieur, qui est quand même assez bien placé dans le projet, nous avait annoncé à l'époque que, en gros, les personnages seraient débloquables uniquement en jouant au jeu. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des loot box qui viennent d'apparaître dans le jeu avec, je vous laisse deviner, des personnages derrière.
On s'en doutait pas du tout.
Non, mais en fait, c'est pour ça que la dernière fois, quand on parlait de Apex Legends, je disais que je me méfiais de la suite. Précisément pour ça. C'est-à-dire que tu peux avoir un jeu qui est clean dès le départ, et on te met des douilles au fur et à mesure. Et là, on est précisément dans ce cas-là. Je précise au passage qu'il a expliqué que non, il n'avait pas menti, qu'à l'époque, c'était pas prévu dans les plans, et que des fois, bon, il y a des changements dans le business qui font que, ben, des choses qui étaient vraies à l'époque ne sont plus vraies aujourd'hui. Très bien, je veux bien entendre cet argument-là. Sauf que quand même, j'aimerais rétorquer une chose, c'est que ce monsieur, il est pas dans n'importe quelle boîte, c'est pas un petit développeur, tu vois, qui sort de nulle part, il est chez Activision. Ce monsieur, il a des communicants qui sont derrière lui, H24, on est d'accord. A priori, je pense que si, à l'époque, il a sorti que les personnages seraient débloquables directement dans le jeu, c'est qu'il avait l'aval de la communication. Hein. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que à l'époque, Activision, je l'accuse pas lui personnellement, j'accuse Activision, a validé le fait qu'il n'y aurait pas de lootbox pour débloquer les personnages et qu'il fallait communiquer dessus. Parce que c'est ça, c'est un argument marketing.
Oui, carrément, ouais.
Donc si c'est un argument marketing, clairement, on peut, je pense, légitimement, sans accuser la personne directement, dire qu'Activision se fout de notre gueule. Et surtout, derrière, il dit, oui, il n'y a pas 36 solutions à ça, soit j'arrête de donner des interviews, soit je donne des interviews au risque de me déjuger plus tard. Mais non, enfin, mais arrêtez de nous prendre pour des cons, je suis désolé. Quand le mec a annoncé que les personnages seraient débloquables uniquement dans le jeu, c'était un argument marketing, c'était un argument de vente. Regardez, dans notre jeu, vous allez débloquer les personnages par vos efforts, par le gameplay. Donc ça veut dire qu'Activision a menti. Voilà, point. Après, si vous voulez ne plus donner d'interview, très bien, hein, moi ça me fera des vacances, hein, à la limite, y a pas de souci. Mais bizarrement, je suis pas sûr que vous-même vous soyez d'accord avec cette option, en fait. Parce que il faut bien le vendre, le jeu, tu vois, à un moment donné. Et si vous arrêtez de donner des interviews, enfin voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, messieurs.
Moi, je trouve que c'est vraiment une méthode un peu hypocrite, en fait, de leur part. Parce que l'argument commercial, de base, n'a pas été respecté. C'est comme si on vendait des bananes bio, et puis d'un jour au lendemain, on change les produits, mais on te dit pas que c'est plus bio, tu vois.
Oui. Et puis surtout, enfin, moi, c'est vraiment ça qui me pose problème avec le jeu à service, quoi. Enfin, je trouve que le jeu à service, ça devient un peu l'excuse pour faire n'importe quoi. On te sort des jeux pas finis, on te rajoute des douilles plus tard en te disant, ah bah, au départ, on n'avait pas mis des loot box, mais finalement, on va en mettre. Et après, quand tu commences à râler, on te dit, mais mec, connard, t'as joué jusqu'à maintenant, tu t'es investi dans le jeu, donc t'en as bien profité jusqu'à maintenant. Donc si t'es pas content, mais casse-toi. Ouais, sauf que je suis désolé, mais à un moment donné, les gens, ils se sont investis dans ton jeu, et Activision, méfiez-vous, parce que certes, ça passe cette fois-là, mais les gens, ils ont de la mémoire, par contre. Bon, quand on les fait acheter sur Epic Games Store, par contre, là, ça va, ça passe. Mais par contre, je suis désolé, faites gaffe, parce que, mine de rien, il faut souligner aussi que la licence Call of Duty a baissé, et ça va finir comme Guitar Hero, cette histoire, tout ça, hein. C'est pas éternel non plus, à un moment donné.
C'est ça. Mais pour préciser, les ventes physiques de Call of Duty 4 sont en très forte baisse. Par contre, les ventes en dématérialisé ont augmenté, mais on n'a aucun chiffre, en fait. Du coup, on peut se dire que la licence est beaucoup moins rayonnante qu'auparavant. Pour l'Europe, elle a eu un démarrage très timide. Aux États-Unis, ça a aussi diminué. Voilà, peut-être que les gens, en jouant à Fortnite, à Apex Legends, enfin, à d'autres jeux comme ça qui sont positionnés sur le même type, la licence, voilà, n'a plus la même aura qu'elle avait à ses débuts, il y a 10 ans.
Voilà. Aurélien, quelque chose à ajouter?
Non, mais je suis en fait tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Le truc qui me paraît fondamental avec le jeu à service, c'est que le développeur et le joueur entrent dans une espèce de contrat qui est tacite sur une période longue. Dès que le développeur ou l'éditeur, dans ce cas précis, décide de modifier quelque part l'équilibre économique de ce jeu, il y a une rupture dans ce contrat. Et je pense que les éditeurs ont pas pris la pleine mesure de ce que ça pouvait dire sur le futur. Parce qu'effectivement, à l'instant T, ça doit certainement représenter beaucoup d'argent.
Mmh. Oui.
Mais combien de pertes ça peut aussi générer plus tard ? À mon avis, Activision, ils sont dans une posture où le plus tard, ils s'en foutent maintenant.
C'est ça.
Et du coup, ouais, je trouve que c'est un peu puant comme stratégie.
Bon, regarde ce qu'ils ont fait avec l'e-sport, par exemple.
Ouais.
Si demain, ils veulent relancer l'e-sport sur un de leurs jeux, mais personne ne va leur faire confiance.
Ouais.
Qui va s'investir dans un jeu Activision demain alors que ils ont trahi la confiance de tout le monde et qu'ils ont foutu des gens dans la merde. Enfin, les gens vont se rappeler à un moment donné. Je veux bien que les gens soient cons, mais quand même, quoi.
Non, mais surtout, moi, ce qui me désole le plus dans cette histoire, c'est le fait qu'on te parle de Call of Duty 4 Black Ops, donc qui est sorti, mais là, ils te parlent pas, on va mettre des lootbox payantes dans le prochain Call of Duty, parce qu'ils en sortent un tous les ans, donc c'est pas comme si c'était dans le prochain allait sortir dans 10 ans. Et ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'ils disent pas, oui, le prochain Call of Duty, on a décidé de mettre un système de lootbox, et là, ils te mettent une petite entourloupe, parce qu'on trouve que c'est plus équilibré, enfin, tu vois, ils sortent un argument marketing à la con. Mais là, non, c'est le jeu que t'as acheté déjà, donc toi, tu te dis, ok, bah, c'est cool, je vais pouvoir jouer au jeu, débloquer mes différents paliers tranquillement. Du jour au lendemain, bah, ils changent comme ça de politique. Et c'est ça qui est vraiment, c'est vraiment le pot pourri, quoi, que Activision aurait réussi à faire avec ce jeu, quoi.
Bon. Messieurs. On va enchaîner? Morren, est-ce que tu vas nous faire rêver?
En tout cas, c'est ce que nous propose Media Molecule. Hein. Évidemment, vous connaissez Media Molecule avec, bien sûr, Little Big Planet. Leur prochain projet, qui est annoncé depuis un moment déjà, s'appelle Dreams. Et dans la même veine que Little Big Planet, c'est un jeu qui va nous proposer un matériel de création. Mais beaucoup plus...
poussé.
Poussé et ambitieux que ne l'ont été les Little Big Planet à l'époque.
Bah ça fait penser un peu à un espèce de Project Spark XXL.
Exactement. Donc on voulait vous parler rapidement de Dreams parce que on sait que ça y est, il va sortir en accès anticipé pour la modique somme de 30€ sur PlayStation Store, notamment en France et dans certains autres pays. C'est pour le printemps. Et quand on voit des trailers, bah on se dit qu'il y a vraiment du potentiel avec ce que sont capables de faire les communautés qu'on voit, notamment par exemple, récemment on a vu sur Wargroove ce qu'un éditeur de cartes pouvait faire.
Il y en a qui sont amusés à recréer Advance Wars dans le jeu, hein, ouais. Je rappelle.
Donc ça a vraiment le potentiel d'être très très grand ce que va proposer Dreams. Donc ça nous rend évidemment très curieux.
Et tu disais qu'il y a des gens qui ont recréé Advance Wars sur Wargroove. Là, faut savoir qu'il y a des développeurs qui ont créé Pity dans Dreams, à l'identique. Mais en fait, ce jeu-là, c'est un truc super intéressant. Mais j'ai un gros problème personnellement avec ce type de jeu parce que j'ai plus l'impression, en fait, qu'on va devoir créer des jeux un peu comme Mario Maker ou même Minecraft, construire des choses. Et moi, c'est pas la partie d'un jeu que je préfère le plus.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que Mario Maker, tu peux être dans une position de consommateur, en fait.
Complètement.
C'est-à-dire,
ouais.
Tu crées rien du tout et tu vas juste consommer les niveaux qu'ont créé les autres, quoi.
Ouais, mais même dans Dreams et dans Minecraft. Mais moi, j'ai besoin d'avoir un jeu, on va dire, qui est fini, parce que là, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir un petit peu de talent pour réussir à faire quelque chose de potable là-dessus, quoi, parce que, mais moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. Et après, même jouer au niveau des autres et tout, bah, je préfère plutôt aller regarder sur YouTube les gens ce qu'ils ont réussi à faire, que essayer de moi-même de chercher, parce que déjà, ça dépend du moteur de recherche qui est incorporé dans le jeu. Après ça, faudra voir comment ça va être mis en place. Mais par contre, le concept est génial. Si le concept est vraiment le jeu, et qu'on peut faire des choses comme ça, bah c'est juste incroyable ce qu'on peut faire avec ce type de jeu, surtout que voilà, comme je l'ai dit, c'est avec une manette PlayStation 4, donc c'est encore deux fois plus génial, quoi.
Alors par contre, je vais poser une question, est-ce que je suis le seul que l'accès anticipé gêne?
Non, moi aussi ça me gêne un petit peu parce que bah payer 30€ pour un accès anticipé, moi je considère ça comme bêta testeur, donc ça devrait être l'inverse, ça devrait être eux qui te payent pour que tu les aides et pas toi qui payes pour pouvoir y jouer, en fait.
Bah oui, surtout que moi, jusqu'à maintenant, si tu veux, j'ai toléré l'accès anticipé parce que je me dis, ouais, c'est pour des petits studios qui ont pas des moyens, tu vois, allez, on va faire un effort. Mais là, c'est Sony, quoi. Enfin, je sais que ce que je vais dire, c'est utopique, mais je sais pas, tu mets ton jeu en accès anticipé gratuitement et pour avoir, tu sais, la première dose qui est gratuite, tu mets un lien à la limite précommander le jeu, voilà, à telle date, voilà, ça devient payant et t'as plus accès au jeu, mais... Le fait que Sony se permette de faire payer les gens, déjà, ça me pose problème. Et puis, il y a tous les problèmes liés à l'accès anticipé. C'est que j'ai vraiment peur. Alors, c'est Media Molecule, dont j'ai tendance à un peu plus leur faire confiance qu'à Wildcard Studio, par exemple. Hein, n'est-ce pas, mon cher Morren? Mais J'ai quand même peur que l'accès anticipé, ce soit l'argument perché. Mmh. Ouais, c'est-à-dire, ah, je suis en accès anticipé. Ça, ça marche pas. Non, mais c'est accès anticipé, de toute façon. Bon. Alors, en tout cas, voilà. J'espère qu'on sera plus dans un accès anticipé démo, entre guillemets, mmh. que dans un accès anticipé pure premium, copyright Wildcard Studio, où il y a plein de trucs pétés, et on te dit, non, mais c'est en accès anticipé, c'est bon, ça marchera à la sortie, vous en faites pas. Faites-nous confiance.
Je le vois pas tout à fait comme ça. Faut bien voir que ce jeu de Media Molecule, il est annoncé depuis des plombes. Il a été officiellement annoncé en 2015. Hein. Je pense très honnêtement que Sony a dû leur dire, les gars, faut y aller là, quoi. Ça fait des années qu'on vous finance,
PlayStation 5 est au coin de la rue, là, s'il vous plaît.
Et... non, mais en fait, ouais, je vois bien le truc en mode, bon, sortez-nous en accès anticipé, que au moins on ait une espèce de petit retour sur investissement qui nous vous permette éventuellement de poursuivre le développement. Je verrais bien un truc comme ça.
D'accord,
quoi.
Mais il y a Sony derrière qui a mis les ronds, donc normalement...
Ah non, mais...
Moi, enfin, pour pouvoir faire, entre guillemets, un accès anticipé juste, c'est... Ok, les gars, vous payez 30 balles, mais après, le jeu, quand il sort, il est à vous pour ce prix-là, et quand il sortira en retail, le prix sera à 50 balles ou 60 balles, le prix, on va dire, d'un jeu classique. Là...
C'est probable que c'est ça qui se passe, hein.
Ah non, mais là, dans ce cas-là, oui, l'accès anticipé, pour moi, c'est un intérêt. C'est-à-dire que tu prends un risque en cautionnant un jeu qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas en état définitif.
Ouais.
Et là, du coup, moi, je trouve que c'est plus juste.
Ouais, mais encore une fois, tu vois, je veux bien que ce soit plus juste. Ok, admettons. Mais je suis désolé, ce risque, je n'accepte de le prendre. Là, je parle d'un point de vue très personnel, attention. Je n'accepte de le prendre que pour les petits studios parce que j'estime que je leur donne un coup de pouce, tu vois, je leur fais une faveur. Moi, je suis désolé, j'ai pas envie de faire une faveur à Sony, quoi, au bout d'un moment.
Ouais. Et puis c'est leur métier à Sony.
Voilà,
hein,
c'est
ça. Quoi.
Et puis, c'est pas des pauvres Sony, entre guillemets, quoi, merde. Enfin, c'est pas des petits développeurs sans le sou, là. C'est pas comme c'est si clair. Sony avait pas dominé cette génération de consoles, qu'ils avaient du pognon et puis se savoir quoi en foutre. Ils peuvent se permettre de financer jusqu'au bout. Alors que tu commences à mettre la pression au studio, leur dire les mecs faudrait sortir un truc là, très bien, mais de là à sortir un accès anticipé payant, parce que c'est vraiment le côté payant moi du truc qui me pose problème là au bout d'un moment. On va faire des bêta testeurs pour Sony quand même là, à un moment donné il faut bien dire ça quoi, tu vois.
Moi je suis entièrement d'accord avec toi, je suis dans le même état d'esprit, c'est-à-dire si c'est un petit studio qui débarque de nulle part et que tu trouves le concept sympa, tu les aides financièrement entre guillemets pour ensuite pouvoir avoir retour sur ton investissement en aidant à améliorer le jeu. Par contre, quand je disais ça, c'était de manière globale. Mais c'est vrai que Sony, c'est des mecs qui ont du pognon, et soit vous mettez une bêta gratuite et que les gens font un retour et qu'ils veulent vous aider déjà bénévolement, c'est déjà sympa, parce que à la base, il y a des bêta testeurs pour ça, et c'est des mecs qui font du QA et qui sont payés. Sauf que maintenant, j'ai l'impression qu'avec depuis qu'il y a le online, on dit bah ouais, mais bon, on va faire quelques QA, mais déjà on prend des pays généralement où le salaire minimum est très très bas, par exemple des pays comme l'Inde, voilà, des pays où vraiment où c'est, ils exploitent cette misère humaine pour pouvoir faire du QA rapidement et très facilement. Ce que j'aurais préféré, c'est qu'ils fassent eux-mêmes en interne des vrais tests et qu'ils payent les gens de manière convenable. Ça aurait été l'idéal, mais
oui, et puis d'ailleurs pour finir là-dessus, à un moment donné le QA c'est un vrai métier quoi. Certes, il y a des retours qui peuvent être intéressants à prendre sur un accès anticipé, mais c'est pas les mecs de l'accès anticipé qui vont te permettre de skipper la phase de QA, quoi. Enfin.
Ah, mais je pense que la phase de QA, elle a été validée quand même en amont, parce que sinon, ce serait...
Non, mais ça, je veux tout à fait le croire, surtout que c'est Media Molecule. Mais j'ai tendance à penser que pour pas mal de studios, c'est un moyen facile de se passer de ça.
Oui, bien sûr.
Et c'est ça qui me dérange aussi avec... le développement actuel de l'accès anticipé, c'est que j'ai de plus en plus l'impression qu'en gros, c'est un bon moyen de réduire les coûts, mais pas dans le bon sens. Ouais, le QA, bon, enfin, vas-y, c'est pas un vrai métier, de toute façon, on peut se permettre de faire ça par les joueurs, hein, c'est... voilà, enfin, moi, j'ai quand même un petit souci avec cette notion-là, quoi. Enfin, bref. Messieurs, je vous propose de partir maintenant dans la minute trollo de la semaine.
Il en faut une.
Il y a un jeu qui est sorti récemment, qui s'appelle Crackdown 3. Un jeu, je sais pas. Moi, à chaque fois que je l'ai vu, vous allez me dire ce que vous en pensez, je me suis dit, putain, ça a l'air absolument merdique.
Oui, je confirme.
Moi, à chaque fois que j'ai vu des vidéos de ce putain de jeu, je me dis déjà, c'est un jeu qui est plus actuel techniquement, je vois pas ce qu'il apporte en plus d'un point de vue gameplay, c'est mou du cul, je comprends pas. Le jeu est sorti, c'est une grosse merde. Je vais être très honnête avec vous, hein, je vais pas y jouer, hein, je suis pas masochiste non plus, mais il me suffit de le voir tourner pour voir que c'est de la merde, hein, à un moment donné, tu sais, voilà quoi. Donc, Microsoft a sorti ce jeu, et j'aimerais poser la question. Des fois, Microsoft, je vous comprends pas, en fait. Vous annulez un projet comme Scalebound, qui avait l'air mais mille fois plus avancé que ça, en fait. Alors, pourquoi pas, hein, peut-être qu'il y avait un problème avec Platinum Games, j'en sais rien. Mais, en fait, ce qui me pose problème, c'est pas que vous ayez annulé Scalebound. c'est que vous ayez continué jusqu'au bout cette espèce de suicide avec Ragnarok 3. Mais pourquoi Microsoft vous avez sorti ce truc? Je veux dire, c'est pas comme si vous étiez à ça près niveau exclu. Hein. Je veux dire, maintenant, ça fait longtemps qu'on a compris que la Xbox One, elle était morte, quoi. Je veux dire, et que plus personne n'attend des exclusivités sur cette console, et que même les morts de la faim qui ont la console, je veux dire, et qui voudraient une exclusivité Microsoft, j'en doute qu'il y en ait beaucoup qui attendaient à Crackdown 3 avec impatience, quoi, quand même. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous êtes allé jusqu'au bout avec ce projet, qui a dû vous coûter un pognon fou en plus, pour arriver à ce résultat-là, quoi. Enfin, à un moment donné, des fois, Microsoft, il faut savoir annuler un projet.
Surtout que le jeu, ça fait longtemps qu'il est en développement, mais en plus de ça, là, c'est des retours, en fait, de chez Gamekult, où ils en ont parlé pendant l'émission. J'ai entendu, je crois que c'était Gotoz, il me semble, parler de ce jeu-là, et apparemment, c'est Microsoft qui a vraiment foutu la merde dans le projet, en mettant 10 studios à travailler sur le projet, et que la communication passait très mal. Et du coup, ils savaient vraiment qu'il y avait des problèmes en interne, mais que Microsoft a quand même laissé vivre le projet sous perfusion. Et du coup, ça donne un résultat un peu bâtard qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que, enfin, on parlait des exclus Microsoft. Moi, je pense vraiment que la console Xbox, elle est vraiment intéressante si t'aimes les jeux de sport, de voitures sportives. Par exemple, la série des Forza, je trouve qu'elle a vraiment à déclasse Gran Turismo. Mais mis à part ça, c'est sûr que... Voilà, il y a pas grand intérêt, surtout que maintenant la console, les jeux sont disponibles sur PC. Enfin, Microsoft s'est réjoui que Crackdown 3 était le jeu le plus joué la semaine dernière. Oui, mais en même temps, le jeu est gratuit sur le Game Pass. C'est pas un exploit. Les gens, ils ont vu, peut-être qu'ils ont vu que le jeu était pourri et ils ont dit, bon, on va se marrer. Surtout que j'ai pas dépensé d'argent directement parce que le Game Pass, je l'avais pour jouer à Sea of Thieves ou bien à Cuphead. Mais qui dit que le jeu sur le long terme va perdurer? Enfin, moi, je pense vraiment que, enfin, personnellement, en ayant vu des vidéos du jeu. Le jeu a l'air beaucoup moins intéressant que le premier Crackdown qui était sorti en 2005 sur la Xbox 360, qui était lui, pour l'époque, un jeu rafraîchissant. Mais là, le Crackdown 3, je suis désolé, il est en retard par rapport à l'ancien. Déjà, la ville, elle est vide par rapport à ce qui était fait sur l'ancienne génération.
Eh, hey, mais sérieux, il y a des modélisations, je me suis dit, mais je suis sur Dreamcast, là, en fait. Non, mais sérieusement, quoi.
Non, mais c'est vrai, mais au début, on nous vendait le jeu, ouais, on pourra détruire la ville de mille façons différentes et tout, grâce au cloud. Mais en fait, au final, c'est disponible dans le jeu, mais que pour la partie multijoueur, et encore, ça marche pas super bien.
Ouais, c'est pas fou, en plus, c'est ça le truc, quoi. C'est, à l'époque, on nous vendait ça comme le truc, vous allez pouvoir tout péter, ça va être un moteur physique de ouf, vous allez détruire tout, machin. Que dalle. Et franchement, c'est hyper limité, quoi.
Non,
je
mais
comprends pas.
Voilà. Et puis, comme tu disais, Scalebone, déjà, rien qu'en termes de graphisme, c'était beaucoup plus actuel que Crackdown 3. Après, c'est vrai que Platinum a la réputation d'être une équipe très difficile à travailler avec eux. Peut-être que voilà, je sais pas s'ils ont pris le jeu un peu trop à bras le corps et qu'ils ont dit ouais, c'est un jeu pour les gaijin, du coup on va faire un peu de la merde et que les vrais jeux nous on va les sortir de notre côté. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé entre Microsoft et Platinum.
Ou alors peut-être que tout simplement Microsoft voulait fourrer son un projet que Platinum a dit fuck off quoi à un moment donné quoi. C'est possible aussi, tu vois. Enfin, on n'en sait rien, mais. À un moment donné, je ne m'explique pas, tu vois, qu'un projet qui avait nettement plus de gueule que ça ait été annulé et qu'il continuait sur ça. Enfin, je...
Ouais. Non, mais ça c'est, chez moi, quoi. C'est dommage, quoi.
That's not compute.
Surtout que même la licence Gears of War et Halo, sur cette génération de consoles, ils n'ont pas réussi à rattraper un peu l'effet qu'ils avaient avant. Parce qu'avant, c'était une licence. Quand ça sortait, bah, tout le monde ne parlait que de ça pendant la semaine de sortie. C'était un peu, voilà, le Red Dead Redemption de la Xbox ou bien un GTA sur une console. Moi, personnellement, j'ai acheté la Xbox 360 grâce à Gears of War. Le jeu à l'époque était arrivé, ça m'avait mis une claque technique mais monumentale. Je me suis dit mais c'est quoi ce jeu? Ça avait réinventé un peu le TPS. Et là sur cette génération là, Gears of War 4 il est moins bon que les anciens. Halo ça patine un petit peu. C'est vraiment dommage. Moi je trouve que c'est une génération sacrifiée pour Microsoft en fait.
Tu sais quoi Morgan? Puisqu'on parle de Xbox, on va enchaîner par la news qu'on avait prévu d'aborder en dernier, mais je trouve que ça fait une bonne transition. Je crois que Microsoft, en fait, finalement, ils s'en battent les couilles hein, des consoles. Hein. Sérieusement, quoi. Enfin, en tout cas, vu les rumeurs qu'on a en ce moment, alors vous allez me dire c'est des rumeurs, mais tu vas l'expliquer, Morgan, on a tendance à les croire, ces rumeurs.
Ouais. Alors déjà, ouais, pour préciser un petit peu d'où ça vient de jeuxvideo.com, du journaliste qui s'appelle Epion, qui est... J'ai tendance à croire très bien renseigné du côté Xbox notamment. Il a signé très récemment un bouquin sur la licence Halo avec pas mal d'interviews, etc. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ait des sources internes chez Microsoft et chez Xbox. Et donc il nous sort, voilà justement, ce que Microsoft prévoit et Xbox prévoit pour l'E3 comme annonce.
On va utiliser le conditionnel, Morgan, quand même.
Oui, prévoirait, merci. Mmh. Alors, pour le coup, quelque chose qu'on sait déjà, ils en ont parlé à la GDC, c'est qu'ils prévoient un outil de développement qui permettrait en fait aux développeurs d'aller chercher en fait le gamer tag des personnes qui pourraient du coup utiliser le Xbox Live sur iOS, Android, Switch, Xbox et PC. Donc ça c'est quelque chose qu'on sait. Et ce que l'on apprend en tout cas dans cet article, c'est que Xbox prévoirait d'aller plus loin avec un partenariat très net avec Nintendo sur la Switch et la portabilité du Game Pass vers la Switch. Notamment, seraient concernés Ori and the Blind Forest ainsi que Cuphead, et l'annonce du portage de Hellblade sur Switch ferait partie de ce travail en partenariat de Nintendo et de Xbox. Voilà, a priori, il n'y a pas que ces petits jeux entre grosses guillemets qui seraient concernés.
Parce que si j'allais dire si c'est pour ça, ouais. À la limite Cuphead, ils sont pas 100% indépendants de Microsoft non plus. Ouais. Ils l'ont sorti sur PC, je veux dire. Hein, donc voilà. Si ce n'est que ça, mais apparemment il y a d'autres choses.
Apparemment il y a d'autres choses et se présenterait peut-être la possibilité que au moins une des trois grosses licences de Microsoft, à savoir Halo, Gears of War ou Forza, fasse aussi le voyage du côté de la Switch. Alors on sait pas dans quelle mesure, hein, si
est-ce
ça
que ça serait du stream, par exemple.
Ouais, voilà, parce que
est-ce
là, pour le coup, ça serait pas le jeu qui est sorti sur la Xbox, parce que techniquement, la Switch ne peut pas le faire tourner.
Voilà, donc la vraie question qu'on se pose, c'est une question à laquelle l'article ne répond pas à l'heure actuelle, c'est est-ce que on parle de jeux qui ont été commercialisés sur la génération d'avant, donc sur la Xbox 360, ou est-ce qu'on parle de la solution xCloud qu'on sait que Microsoft développe d'arrache-pied, parce qu'on sait que ça fonctionne. Il y a, je crois que c'était en fin d'année, c'est Assassin's Creed Odyssey, il y a eu un test au Japon, donc voilà, il y a des choses comme ça qui existent déjà.
Et il y a aussi
sur la Switch.
Resident Evil 7 qui est jouable de cette façon-là sur Switch, au Japon uniquement.
Donc est-ce que c'est possible et que Nintendo pourrait s'engager dans cette voie-là ? Ça reste évidemment des points d'interrogation sur lesquels les sources d'Epion n'ont pas parlé. Il évoque aussi la possibilité que certains jeux rares reviennent du coup dans l'escarcelle de Nintendo via le Game Pass.
Bon, en même temps, tout le monde s'en bat les couilles.
Oui, c'est pas faux.
Tout le monde s'en fout des jeux récents.
Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est ce que ça veut dire sur l'état, en fait, de Microsoft, enfin de la marque Xbox, et l'état de force, hein, de puissance de la marque Switch, qui voudrait dire que, bah, en fait, Microsoft a plutôt envie de faire ses thunes sur du service plutôt que sur de la vente de consoles.
Ouais, parce que tu comprends, le hardware c'est chiant, faut construire des trucs, etc.
Ce qui est assez rigolo, c'est que le même jour, Epion, encore une fois, sort des sources concernant le projet Scarlett, qui pour le coup est le nouveau hardware de Microsoft, qui serait en fait deux consoles. Une console entrée de gamme qui serait du coup moins chère et qui n'embarquerait pas de lecteur Blu-ray, et qui serait du coup vraiment tournée vers le Game Pass et le xCloud, et une deuxième qui serait plutôt sur un prix comme la Xbox One X à l'époque. Donc c'est assez bicéphale comme stratégie, c'est-à-dire que d'un côté, on va manger dans la main de concurrents, et de l'autre, on poursuit, voire on accélère sur la production de hardware. C'est assez étrange, mais à la fois, j'ai l'impression quand même que ils sont dans une perspective depuis quelques années déjà de diversification de la marque Xbox et de diffusion pour ensuite en tirer les profits.
On rappelle quand même qu'à la base, Microsoft, c'est du logiciel. Hein.
Exactement.
Le hardware, c'est pas trop leur truc. Hein.
C'est vrai.
Voilà. Donc finalement, ce serait un retour aux sources.
Oui.
Voilà, on vous offre un environnement, un écosystème de jeux, la marque Xbox. Éventuellement, si vous voulez, on a ce hardware optimisé qu'on peut vous proposer pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Mais nous, notre objectif, c'est de développer les jeux, le software de la marque Xbox, tout simplement. Pour moi, ça a du sens dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si derrière, ils essayent de développer à fond la partie hardware, là, je comprends plus par contre.
Par contre, moi, il y a une grande inconnue que j'ai par rapport à tout ça, c'est quand on met un jeu sur le Game Pass, combien ça rapporte aux développeurs?
Oui.
Pour moi, c'est une grande inconnue parce que là, pour l'instant, il y a des jeux qui sont exclusifs à Microsoft et finalement, le catalogue n'est pas très fourni. Mais si le catalogue s'allonge de plus en plus, combien ça va revenir en fait aux développeurs? Et du coup, ça serait pas mieux que le jeu soit disponible en retail ou sur le store au prix d'achat classique plutôt que d'être sur le store, parce que peut-être que voilà, s'il y a 4-5 studios qui se tirent la bourre, ça peut le faire parce que les revenus sont partagés de manière équitable entre tous et que chacun y trouve son compte. Mais si on en met de plus en plus, je sais pas du tout si ça va tenir sur le long terme. Ça, après, vu qu'on n'a pas les chiffres, malheureusement, je pourrais pas y répondre. Mais sur cette génération de consoles, en tout cas, on peut dire que les constructeurs sont sur une autoroute. Il y a Sony qui est sur la voie de gauche, qui trace à fond. T'as la Switch qui est au milieu, voilà, tranquille, fait son petit bonhomme de chemin. Et Xbox est sur la voie de droite, en train de rouler, limite, si elle va pas aller sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc j'espère vraiment que ils vont reprendre du poids de la bête pour la prochaine génération de consoles, avec les deux nouvelles consoles qui vont peut-être être dévoilées à l'E3, qui sont donc les Xbox Scarlett. Il y en a une qui s'appelle Lockhart et l'autre Anaconda. J'espère que voilà, ça va permettre à Microsoft de revenir sur le devant de la scène avec des studios qui ont travaillé sur le Halo, sur le Gears of War, puis ils ont racheté aussi Ninja Theory, ils ont racheté pas mal de studios avec Obsidian, etc. Ça serait cool vraiment qu'ils arrivent à construire des jeux first party du même niveau que Sony, et pour que voilà, la prochaine génération de consoles soit plus excitante que ce qu'on a eu finalement sur celle-ci, parce que je pense que Sony aurait pu mieux faire si Microsoft aurait été comme sur la 360.
Bah, de toute façon, déjà, tu peux être sûr que Sony, à la prochaine génération, ils vont plus sentir, hein. Déjà, ça a commencé avec toutes les histoires de crossplay, etc. Mm-hmm. Je peux te garantir que le Sony hyper dominant, on a envie que la Xbox s'en fasse, hein, parce ouais, que mais... putain, on va souffrir. Hein.
On espère que malgré tout, Sony aussi a appris de ses erreurs, parce qu'ils l'ont fait avec la PlayStation 3, et du coup, c'est un peu retombé dans leur gueule. Enfin, ils s'étaient pris pour le roi du monde. Vraiment, là, j'espère qu'ils ont appris des leçons, parce que sinon, c'est vraiment que les mecs, c'est des teubés, quoi.
Bon, messieurs, on va terminer cette semaine par un hommage, n'est-ce pas? Un hommage à un monsieur qui va quitter l'industrie du jeu vidéo, a priori. C'est monsieur Reggie Fils-Aimé, qui ne bossera bientôt plus pour Nintendo. Eh oui, il va quitter son poste au mois d'avril. Non, ce n'est pas un poisson. Et je tiens à insister sur le fait que ce n'est pas un poisson, parce que a priori, il va être remplacé par un monsieur qui s'appelle Doug Bowser. Ça ne s'invente pas.
Et on peut pas l'inventer.
C'est une blague.
C'est incroyable.
Entre
c'est une
le
blague.
Mois d'avril et le nom du mec, tu dis non, mais en fait, c'est un poisson en avance. Non, non, apparemment, le mec va vraiment se barrer. Bon, en tout cas, ça y en aura, Reggie, hein, parce que tu nous auras bien fait marrer. Et je tiens à le dire, t'es un des seuls gars dans cette industrie, enfin, disons dans les pontes de cette industrie pour lequel j'ai un minimum de respect. Et surtout, t'es un des seuls gars dans cette industrie qui m'a l'air vraiment sincère quand il parle. Parce que là, pour le coup, je tenais à répondre à pas mal de personnes qui disent « Oui, c'est de la communication. » Oui, évidemment, c'est de la communication. Mais je suis désolé, c'est pas de la communication comme l'espèce de VRP de ses morts de chez Electronic Arts, vous savez, qui avait dit sur la scène « Oui, mon fils, je l'ai appelé Luigi. Et je suis très content de travailler avec Nintendo. » Non, là, je suis désolé. Reddy, c'est quand même un mec qui est quand même assez haut placé dans la hiérarchie de Nintendo, qui n'hésite pas à faire des sketchs, à faire des conneries. C'est pas n'importe qui peut faire ça, hein. Je suis désolé, hein. Allez demander à Bobby Kotick s'il veut faire un sketch avec Bowser, je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Je rappelle quand même que Nintendo, c'est la seule boîte, à l'époque où Iwata était président, que je connaisse, qui a dit « Ah ouais, non mais on est vraiment dans la merde là financièrement, du coup, moi qui suis PDG, je vais baisser mon salaire, hein, et on va virer personne parce que, quand même, il faudrait pas que les employés soient stressés, qu'ils fassent de la merde alors qu'on a besoin qu'ils travaillent bien. » C'est une des seules boîtes que je connais qui fait ça, hein, personnellement. Hein. Et aussi, c'est une des seules boîtes que je connaisse où il y a les pontes de la boîte qui se mettent en scène comme ça, qui déconnent sur scène. Alors certes, il y a un côté un peu kitsch, mais c'est ça qui est marrant, quoi. Enfin, my body's ready, quoi, mec. Merde.
Non, mais même, enfin, pour Super Smash Bros, il y avait Reggie Fils-Aimé contre Iwata qui se foutait sur la gueule. Tu verras jamais ça chez Sony, chez Microsoft. En plus, le mec, il a une bouille sympa, quoi. Déjà, t'as envie de lui tirer les joues, tu vois. Mais non, franchement, je pense que t'as tout dit, tirant par rapport à AJ. Moi, je pense que c'est un mec, voilà, qui était vraiment sincère sur le fait d'aimer les jeux vidéo, les jeux Nintendo. Mais surtout, c'est que il a un capital sympathie très fort. Et même, enfin, Nintendo en général, les mecs qui travaillent chez eux, ils ont un très fort capital sympathie. C'est la communication, mais ils savent bien la faire. Alors qu'il y en a d'autres,
ils ont de la communication malaisante aussi. Je tiens à rappeler, les séances de trait des vaches, c'était quand même un peu...
Non, mais ça, je suis d'accord.
Je sais, j'ai rappelé des mauvais souvenirs dans les esprits de Zelda, mais quand on dit que Nintendo communique bien, je tenais aussi à rappeler certains faits, tu vois.
Ah non, mais tu veux qu'on en parle de Sony avec ses camemberts pendant les E3, ou bien Microsoft avec TV, ou si vous aimez pas la Xbox One, achetez la Xbox 360 si vous voulez pas jouer en ligne. Enfin, tu vois, je veux dire les...
Ouais, non, mais c'est sûr que là, voilà. Non, mais disons que c'est un autre...
niveau de malaisance.
Voilà, c'est ça.
Mais en tout cas, ouais, Reggie, c'était un mec... Quand je le voyais à l'E3, je m'en foutais des jeux Nintendo qu'ils allaient présenter, mais je me disais, au moins avec Reggie, je vais rigoler, tu vois.
Ouais. Ouais, non, moi je suis d'accord avec vous, c'est clairement une des figures du jeu vidéo, même s'il était pas du côté développement. C'est quand même un mec qui a marqué une certaine période de son empreinte, quoi. Il est arrivé chez Nintendo, en tout cas sur le devant de la scène, à peu près au même moment où moi je commençais à vraiment m'intéresser aux jeux vidéo et à suivre les E3 et à suivre tout ça. Très clairement, il fait partie de ces mecs dont j'ai vu les annonces et je les ai suivis et j'ai trouvé ça ouf, tu vois. À une époque où la hype existait encore, tu vois, autour du milieu du jeu vidéo. Mmh. Et c'est vrai que le voir partir après 15 ans, bah ça fait bizarre, quoi. Mais bon, je pense très honnêtement qu'il a mérité sa retraite. Il est pas très vieux, hein, il a 57 ans, Régis Fils-Aimé, mais...
Ouais, bah, mais tu sais, quand t'es patron d'une boîte comme ça, enfin, moi, je crois, hein, quand il dit qu'il veut profiter de sa famille, etc.,
ouais, ouais, ouais,
parce que ça fait un peu le discours cliché, mais en vrai, le mec, il doit pas avoir de vie, quoi. Enfin,
ouais, ouais.
T'imagines, non, PDG ouais. De Nintendo America, va voir grandir tes enfants, quand tu connais un peu le milieu du jeu vidéo, ça doit pas être rose tous les jours, quoi, non plus, quoi.
Parce que lui, il est quand même vice-président exécutif des ventes, mais aussi du marketing, c'est-à-dire qu'il a deux casquettes... sur lui, si j'ai envie de dire, mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, par exemple, côté développeur, les mecs, ils ont des horaires pas possibles. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Christophe Balestra de Naughty Dog à quitter le studio, alors qu'il était devenu directeur de Naughty Dog, parce qu'il voulait juste profiter de sa famille. Hein.
Ouais, ou alors l'ancien patron d'Arkane, comment il s'appelle déjà, enfin j'ai oublié son nom, excusez-moi, mais qui lui aussi est parti parce qu'il voulait profiter de sa famille,
ouais,
tu vois, au bout d'un moment.
Les mecs, ils ont tellement mené dans le guidon H24 pendant des années, au bout d'un moment là, c'est sûr que souffler ça fait du bien. Et surtout voilà, Regis, il avait deux casquettes. Je pense que surtout avec Nintendo, quand il y avait la Wii U et tout ça, c'était pas des moments faciles à vivre pour lui, donc ouais, il mérite bien de se reposer, le pauvre, je pense.
Et puis en plus, il part à un moment où la marque est vraiment dans un regain et dans une dynamique super forte. Il serait parti au moment de la Wii U, ça aurait fait mal au cœur.
Il part, entre guillemets, il dit, bon, voilà, moi, je laisse une bonne image derrière moi.
Bon, Iwata, j'ai fait le job, hein, salut.
Mais voilà, c'est vrai qu'il part avec lui, avec le succès de la Switch qui est là. Donc c'est plutôt bien. Alors qu'il serait parti il y a un an ou deux, avec l'échec de la Wii U, ça
on l'aurait défoncé. Parce qu'on avait le seum à l'époque, hein, t'es chez moi, putain.
Ah bah surtout que la Wii U, je l'avais acheté Day One.
Ah putain, ah,
quel
la
connerie.
Wii U, ouais. On avait un peu mal au rectum à l'époque. Hein. Bon, allez, sayonara Reggie, sayonara les auditeurs, à la semaine prochaine. Ciao.
Salut tout le monde.
Et good luck Reggie.